Salut à tous, la famille, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler dans la grande série sur les archétypes des relations, de la relation entre le maître et l'élève. Et en fait, avant de parler de ça, je voulais partager quelques pensées avec vous. En fait, j'étais en train de méditer juste avant de prendre la parole. Et en fait, je me suis dit, je vais commencer à enregistrer maintenant parce que la ville de Salvador au Brésil est en train de se réveiller. Et en fait, ils font beaucoup de bruit. Et je suis désolé d'ailleurs parce que je le commande tout le temps dans les épisodes, ça va être tellement chiant parce qu'au final, peut-être que vous n'entendez pas, vous, le bruit. Mais ouais, en plus, j'ai aucun respect, genre dans le pays des gens, je me plains du bruit alors que déjà, c'est une population qui est festive, c'est une culture qui est festive. Et c'est l'été, quoi. Pour eux, c'est l'été. Nous, c'est l'hiver, c'est vrai, mais pour eux, c'est l'été. Les gens ont travaillé durement pendant un an, ils prennent leurs vacances. Et moi, je suis là... Arrêtez, il du bruit. Mais bon, vous voyez à quel point, le Saturne en maison 5, il est piégeux, quoi. Et même si c'est mon retour de Saturne, et je pense que c'est par hasard, hein, si je me retrouve dans un pays aussi heureux, aussi gay, dans tous les sens possibles du terme gay, que je me retrouve là et que je sois un peu bougon, j'arrive pas forcément toujours à m'amuser, à me mettre bien, etc. Je pense que c'est aussi mon retour de Saturne, enfin, c'est ma croix à porter, quoi. Anyways, et je réfléchissais à pas mal de choses et je me suis dit en fait que... Enfin, je réfléchis beaucoup sur moi en fait ces derniers temps. Bon, je pense que la pleine lune en Lion, elle m'a aussi hit en plein dans la tronche, en plein dans mon soleil. Et je sais pas, je réfléchis sur moi et... genre, je me dis quand même que l'un des plus gros défis de ma life, c'était de comprendre qui je suis et pourquoi je suis comme ça, dans quel but, etc. L'autre gros défi, je pense que c'est d'être compris et de pouvoir diffuser des informations. Donc vraiment, ce n'est pas des choses que je dis au hasard. Hein, quand je dis que vraiment, grâce à Mythologie Astrale, j'ai complètement changé ma vie. En ce moment, je fais beaucoup de consultations avec des clients de Mythologie Astrale. Et forcément, pendant les consultations, on parle beaucoup. Et parfois, en fait, je donne pour illustrer en fait, un aspect. Et surtout, quand ce sont des personnes qui ont des thèmes qui sont similaires aux miens, je donne mes propres exemples de vie en fait. Donc on en vient à échanger énormément, c'est extrêmement riche en fait ces consultations, et surtout je prends mon temps parce que j'ai le temps. Et je réalise à quel point c'est dans mon ADN en fait de discuter avec les gens, de chercher à comprendre c'est quoi leur problème et de chercher des solutions. Et je pense que j'ai combattu cette partie de moi-même pendant longtemps parce que j'ai pas forcément grandi dans un environnement bienveillant, en tout cas à l'égard des personnes ressources, on va dire. Voilà. On a plus tendance à drainer les personnes ressources jusqu'à la dernière goutte plutôt que d'en prendre soin et de leur donner aussi l'autorité, le respect qui va avec, quoi. Donc ça m'a pas forcément donné envie de partager du coup cette dimension de moi-même avec les autres parce qu'il y a toujours cette peur d'être abusé, cette peur d'être en anglais c'est taken advantage of. Bon, j'avoue, j'abuse de vous, j'aurais pu le dire en français, mais je trouve qu'en anglais, ça sonne beaucoup mieux, quoi. Vraiment être... Enfin, on prend l'avantage sur vous, quoi. Genre, je trouve que, enfin, des fois, l'anglais explique mieux que le français. Bref, tout ça pour dire que je parlais, en fait, avec ses clients et tout cette semaine. J'ai eu pas mal de consultations. Et en fait, voilà, j'en suis venu à la conclusion, déjà, de un, que je vois même pas ma vie autrement que comme ce que je suis en train de vivre actuellement et ce que je suis en train de faire. J'arrive pas à croire que c'est ma vie et que tous les matins je me lève, je rends grâce à Dieu, je fais mes contemplations, je fais mes méditations. Moi vraiment le matin c'est voilà. Et je me dis waouh, aujourd'hui je vais aider des gens à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Ils vont ressortir de là genre rafraîchis. Et en fait je pense à toutes les prières que je faisais quand j'étais petit. Et Autant je pense que mon animal totem, c'est le papillon, autant je pense que la tortue en dit beaucoup plus sur moi et sur ce que j'ai vécu et la direction dans laquelle je vais plutôt que le papillon. Enfin, le papillon, évidemment, est hyper important, surtout quand on a des énergies de transformation, etc. Mais ouais, je pense vraiment que la tortue, elle symbolise beaucoup mieux parce que je porte énormément de choses sur mon dos, mais pas... je sais pas comment l'expliquer... Pas dans l'espoir de garder tout ça sur mon dos. Je sais qu'à un moment, je vais devoir justement prendre ma carapace presque et l'ouvrir en fait pour proposer en fait aux gens ce qui se trouve dedans. Et en fait, la réalisation que j'ai eue avec la pleine lune en Lion, c'est que je me suis dit, en fait, tu continues à porter ta carapace comme si, enfin voilà quoi, comme si la route elle était encore longue, alors que ça y est, en fait, on a déjà, ou je, hein, mais tout autour de nous, cette communauté de personnes qui sont passionnées par la spiritualité, passionnées par parfois la religion. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, hein, je dis pas que ce sont des théologiens ou quoi, mais il y a vraiment des gens qui ont des avis très pointus sur des questions théologiques, sur des questions religieuses. Et on a des personnes qui sont juste passionnées de mythologie et qui apportent leurs propres commentaires, des mythes que moi je vous présente dans le podcast. Donc vraiment, enfin, juste cette prise de conscience de se dire que, en fait, ça y est, genre, j'ai plus besoin de porter tout ce poids en fait sur mon dos. Non seulement je peux me délester en fait de ce poids en partageant en fait la connaissance, parce que je trouve que la connaissance qui n'est pas partagée, elle pèse sur la conscience de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un. C'est étrange d'emmagasiner autant de lumière, mais de ne pas la partager. Alors, la définition même de quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui donne des fruits. Et comment donner des fruits si on ne partage pas en fait ce qu'on est? Et vraiment sans prétention aucune, hein, je ne suis pas le Christ, vous n'allez pas, je vais pas vous dire, ah, mangez ma chair, wesh. Mais... Mais voilà, c'était hyper important pour moi de partager ça parce que enfin, j'ai eu la réalisation. Alors, vous me direz, est-ce que c'est une épiphanie? Est-ce que c'est une prise de conscience? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment eu cette réalisation-là pendant la pleine lune en Lion, où je me suis dit, waouh, en fait, enfin, ça y est, quoi. La vie que moi je voulais en tant que personne spirituelle, la vie pour laquelle j'ai prié. En fait, elle n'est pas encore aussi bien enclenchée que je le voudrais. Mais clairement, en fait, les rails que j'ai cherchés pendant des années, je suis dessus et j'ai plus qu'à continuer à pousser, j'ai plus qu'à continuer à avancer. Et je pense que j'ai eu cette réalisation-là parce que bizarrement, cette semaine, j'ai eu beaucoup de clients qui avaient des thèmes qui étaient similaires aux miens. Et je suis sûr, à l'approche de cette pleine lune en Lion, et en fait, l'espèce de zénith, de climax de tout ça a été la pleine lune en Lion, qui avait quelque chose à révéler. Et je pense que la révélation, c'était celle-là, c'est que je n'ai plus besoin de courir, je n'ai plus besoin de partir, je n'ai plus besoin d'aller explorer des lieux dangereux, etc. Ça y est, en fait, j'ai trouvé ma voie. Je suis à l'aise dedans, je suis établi dedans. Et en plus de ça, le fait que j'ai trouvé, la conséquence que moi, j'ai trouvé ma voie et que je suis à l'aise dedans, c'est que d'autres personnes trouvent leur voie, ou en tout cas se comprennent mieux, ou se sentent mieux, tout simplement, peut-être. Après avoir écouté des épisodes du podcast ou participé à des événements avec moi, que ce soit le webinaire, que ce soit sur Patreon. Et juste ça, en fait, je voulais dire merci. Je pense que c'était très important pour moi de faire ce disclaimer. Et voilà. Et du coup, je vais revenir vers le sujet principal d'aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre écoute. Et on va parler de l'archétype du maître et de l'élève. Et ça va être extrêmement lourd, mais en même temps, ça va être extrêmement lié à l'image de la tortue, en fait, que je vous ai décrite. En fait, je suis extrêmement curieux. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez dû vous rendre compte. Je suis très curieux et je suis très curieux à propos de choses qui sont assez différentes les unes des autres. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Peut-être que c'est ma conjonction de Vénus et de Mercure en Cancer, ma lune en Gémeaux. J'en ai absolument aucune idée dans la maison 8. Mais je suis très curieux et j'aime bien combiner des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble à première vue. Et justement, ça, c'est les choses qui font un peu bandé Aphrodite-Vénus, c'est de pouvoir conjuguer ensemble et de mélanger ensemble des énergies qui sont a priori pas forcément compatibles. Pour moi, l'archétype du maître et de l'élève, donc l'archétype relationnel, hein, du maître et de l'élève, c'est juste l'archétype le plus important, je pense, de l'histoire de l'humanité, parce que tout est parti de ça, en fait. Et vous verrez que souvent, les grandes religions de ce monde obéissent aussi à ces lois archétypales. Et vous verrez que souvent, dans ces religions, dans ces cosmogonies, les personnages les plus importants obéissent ou en tout cas suivent cet archétype relationnel du maître et de l'élève. À commencer par, comment dirais-je, à commencer par, Adam. Et Dieu, en fait, Adam et Jéhovah, Adam et Yahvé, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, il a tellement de noms et de dénominations différentes, juste chez les Juifs, alors je n'ose même pas imaginer dans toutes les langues et dans toutes les cultures du monde, mais voilà, la relation que Dieu entretient avec l'humanité, c'est une relation de maître et d'élève. La relation que les enfants entretiennent avec leurs parents, c'est une relation de maître et d'élève. La relation entre un professionnel et son apprenti, c'est aussi une relation de maître et d'élève. En fait, c'est ça que je trouve hyper puissant avec cet archétype, c'est que, de toute façon, plus les archétypes sont puissants, et plus vous pouvez glisser des réalités qui sont différentes à l'intérieur. Donc, si vous commencez à pouvoir glisser plein de réalités dans un archétype, c'est que c'est un archétype qui est majeur. Et je pense sincèrement que cette question de l'élève et du maître, c'est hyper important. Deux secondes, j'essaie de retrouver mes notes. Bamboclat. Voilà. Moi, ce que je trouve creepy, parce que vous vous doutez bien que s'il y a une dimension lumineuse et positive des archétypes, il y a forcément une dimension voilà, un peu plus challengeante, un peu plus ghetto de l'archétype. Et en fait, moi, ce que je trouve. Et je vais juste donner un seul dark side, parce que c'est bon, là, 2024, ça va être une année de lumière. On a assez parlé du dark side, maintenant, il faut parler de la lumière. Mais voilà, le seul bémol, et en même temps, c'est logique, par rapport à l'archétype relationnel du maître et de l'élève, c'est évidemment le fait que ce soit une relation asymétrique. Hein. C'est une relation qui est asymétrique. Le maître aura toujours l'ascendant sur l'élève. C'est pour ça que quand on regarde des cas ou des situations où on a un maître qui abuse d'un élève, et qu'on commence à discuter, qu'on commence à dire « Ah ouais, mais l'élève, que ce soit un homme ou une femme, hein, ah mais ouais, c'est vrai qu'il était un peu machin, donc du coup, machin, non. » Par défaut, la relation entre le maître et l'élève, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue archétypal, elle est asymétrique. Alors, on se met dans une position de subordination pour pouvoir recevoir, en fait, la connaissance, quoi. Et en fait, ça rend les élèves, je trouve, très vulnérables, très fragiles. Et ça rend les maîtres bah, très puissants et très influents, quoi. Et quand on élève cet archétype relationnel à l'échelle de la société et qu'on essaie d'identifier dans la société des personnes qui obéissent à l'archétype du maître et d'autres personnes qui obéissent à l'archétype de l'élève, ça fait très, 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 très peur. Anyways, je dirais que la période, vraiment l'âge d'or hein, de cet archétype du maître et de l'élève, c'est vraiment l'Antiquité. Avec la fondation de certaines écoles philosophiques et évidemment des disciples de ces courants philosophiques, de ces courants intellectuels, de ces idéologies plutôt. Et les traditions mystiques, évidemment, qui ont existé plus tard, donc bien plus tard que l'Antiquité, hein, je parle ici peut-être plus du Moyen-Âge, de la Renaissance particulièrement, avec beaucoup de traditions mystiques, beaucoup de littérature aussi, qui a été écrite par des bonnes sœurs, par des moines aussi, surtout en France, enfin, partout en Europe, mais particulièrement. La vie monacale littéraire française, quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Les traditions mystiques. Et en fait, aujourd'hui, je dirais l'équivalent de ce truc du maître et de l'élève, c'est dis donc, je suis pas fatigué, mais j'ai du mal à lire. Oh, c'est l'émotion. Attendez 2 secondes. Voilà. Donc, c'est les maîtres spirituels contemporains. Et en fait, là, ça va être. Je sais pas, moi, je raconte n'importe quoi, mais Roland le Grand, Jean-Yves Espier. Enfin, voilà, quoi. Des personnes qui se positionnent vraiment comme des maîtres. Et pas dans le sens maître et esclave, parce que ça aussi, c'est un autre archétype relationnel qui est extrêmement important et qui est présent dans toute l'histoire de l'humanité, vraiment. Hein. C'est-à-dire que pour moi, on a la relation, d'un point de vue idéalisé, hein, on a la relation maître-élève où en fait on se soumet dans un environnement qui est sécurisé pour pouvoir recevoir de la connaissance. Et en fait, pour moi, la relation maître-esclave, c'est l'inverse où on va être soumis dans un environnement qui n'est pas du tout sécurisé, qui est chaotique, dans le but d'absorber, je sais pas moi, des malédictions. De la colère, de la violence, de la frustration, du mépris, de la haine, de la discrimination. Enfin bref, la liste est longue et je pense que vous commencez à la connaître. Tout ça pour dire que voilà, il y a des variations comme ça de certains archétypes qui sont assez sombres. Et c'est normal, c'est parce que l'être humain, c'est pas un monolithe. On est fait de plusieurs dimensions. Pardon, on existe dans plusieurs dimensions. Donc c'est normal qu'on ait autant de variations sur un seul archétype. Mais vraiment, ouais, cet archétype du maître et de l'élève, c'est un archétype qui me fascine. Et je pense que mon côté Gémeaux, avec la Lune en Gémeaux, en maison 8, fait que dans mon essence, je suis un éternel élève. Vraiment. Je suis vraiment un éternel élève dans mon essence. Voilà. Et en même temps, je ne peux pas nier que quand je parle, quand j'essaie de communiquer des choses, et ce n'est pas juste la spiritualité, hein, vraiment, ce n'est pas pour faire le mec, mais. Depuis petit, en fait, les gens se taisent et en fait, ils m'écoutent. Et ça, c'est une grâce. Et vraiment, je prends pas du tout ça comme pour acquis. Au contraire, dès lors où j'ai pris conscience de ça, tout mon devoir, ça a été de me mettre en route pour comprendre ben, pourquoi, en fait, j'ai ce don, comment j'ai ce don et surtout, qu'est-ce que je dois en faire, en fait. Et c'est pas facile tous les jours. Hein. Franchement, Ça fait très Cédric, la bande dessinée et tout, qu'on dit, pas facile, maman, 14 ans. Mais vraiment, c'est pas facile tous les jours. C'est incroyable le kiwi. Donc voilà. Tout ça pour dire que pendant tout ce temps, je pense que j'ai vachement évité, ou peut-être que j'avais peur d'assumer, d'un point de vue archétypal, l'archétype du maître. Et en fait, maintenant, j'assume beaucoup plus parce que. Voilà, je me dis que, un, c'est pas un crime, c'est plutôt un devoir. Et deux, ouais, j'ai des choses à transmettre et à partager, en fait. Et surtout, 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 it's all love, c'est que de l'amour, en fait. Moi, j'ai pas d'agenda quand je fais ce que je fais, je fais juste ce que je pense être juste, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un archétype de relation, celui du maître et de l'élève qui est l'une des épines dorsales. Enfin, c'est bizarre de penser au pluriel ce truc, mais en tout cas, c'est l'épine dorsale pour moi de l'humanité, quoi. Évidemment, il y a plein d'autres types de relations, mais clairement, celui du maître et de l'élève, c'est vraiment un autre niveau d'engagement. Donc, comme je le disais, voilà, l'Antiquité, les traditions mystiques au Moyen-Âge, les maîtres spirituels contemporains aujourd'hui. Et en vrai, voilà, je pense que. Comment il s'appelle? Tony Robbins. Colin Bledel, c'est un astrologue américain, c'est un pote en plus. Il est américain? Ouais. En fait, il est tellement partout dans le monde en ce moment que j'oublie même d'où il vient. Mais non, il est américain d'origine italienne. Alors, son pseudo sur Instagram, c'est Queer Cosmos. Et ouais, en fait, je trouve que juste cet archétype, il a beaucoup évolué. Et en fait, peut-être l'apparence. Et le positionnement des maîtres spirituels contemporains est complètement différent de ce qu'on pouvait imaginer il y a 100 ans ou il y a 200 ans, que ce soit en termes de positionnement, de posture, surtout des postures politiques. Je trouve qu'on est beaucoup plus politisés, les lightworkers, qu'on ne l'était il y a 100 ans. Évidemment, entre-temps, il y a eu deux guerres mondiales, la guerre froide, etc. Hein. Mais ouais, je me trouve beaucoup plus politisé, beaucoup plus mobilisé, en fait, on va dire. On est beaucoup plus présent dans la société. C'est vraiment une prise de conscience de malade parce que j'ai un souvenir vif de moi-même il y a un an en train de me dire je chantais la chanson de Céline Dion Billy et en fait dans la coda de la chanson elle dit si nous nous aimons si les gens s'aiment si les gens s'aiment si les gens s'aiment comme nous nous aimons. Si les gens s'aiment comme nous nous aimons, les magiciens reviendront. Et en fait, les magiciens sont déjà là, la famille. Quand on regarde les influenceurs spirituels, les gens qui font des vidéos et tout, enfin, moi, je ne me considère pas dans cette catégorie-là. Et c'est pour ça que je ne fais pas de vidéos pour l'instant. Mais clairement, ils sont déjà là, en fait. On chante et tout, on est triste, mais les gens sont déjà là. Et je pense que c'est une fierté, je pense que ça devrait être célébré, en fait. J'avais noté peut-être quelques références culturelles par rapport à cet archétype du maître et de l'élève, mais en vérité, je pense que les références culturelles, on les a toutes. Évidemment, le grand modèle archétypal qui me dérange un peu d'ailleurs, parce que c'est un peu limiter l'intelligence à la Grèce antique, mais c'est évidemment celui de Socrate et de Platon. Tous les enseignements des gourous orientaux, les soufis et les autres, les mentors dans des œuvres littéraires, et cinématographiques sont aussi des figures évidemment de l'archétype du maître et de l'élève. Je pense que dans un mythe moderne, donc pas une mythologie du passé, hein, même si c'est ce qu'on aime, mais dans un mythe beaucoup plus moderne, donc un récit qui a massivement été partagé, qui a été accepté par la masse comme une vérité, comme quelque chose qu'on peut partager, etc. Harry Potter. Évidemment que la relation entre Albus Dumbledore, le directeur de l'école de Poudlard, et Harry, le jeune sorcier à l'école des sorciers, c'est une relation entre maître et élève. Hein. Et d'ailleurs, c'est super beau parce que ça montre à quel point c'est un roman d'apprentissage. Enfin, tout est fait pour nous faire comprendre que Harry passe de l'âge, comment on appelle ça, c'est ça, on appelle plus ça l'âge tendre, un truc comme ça. Mais en tout cas, bon, de l'adolescence à l'âge adulte, quoi. Avec toutes les prises de conscience et les changements moraux qui vont avec, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez identifié en fait l'archétype du maître et de l'élève tout autour de vous. Et si c'est le cas, je serais assez curieux que vous puissiez partager en fait dans les commentaires d'autres exemples d'œuvres littéraires, d'œuvres cinématographiques où vous pouvez identifier l'archétype du maître et de l'élève. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. Gros bisous à tous mes Patreons. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on va parler de la relation entre deux époux. Donc, que ce soit, deux hommes, deux femmes, des hétéros, peu importe. Mais en tout cas, voilà, des personnes qui ont décidé de sacraliser leur lien, ou officialiser plutôt leur lien, par le mariage. Voilà. Donc, on va parler de ça dans le prochain épisode. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.